Bonjour tout le monde, bienvenue ce matin. Si vous voulez vous tourner avec moi dans Romains chapitre 12, on va lire le passage que nous allons regarder ce matin ensemble. Donc ce matin, nous sommes à Romains 12 au verset 9, la suite de ce chapitre. Lisons ensemble. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Prions encore ensemble. Seigneur, merci pour ce passage, pour ces instructions. Aide-nous à les comprendre, Seigneur, et surtout aide-nous à les appliquer, à faire ces choses dans nos vies, à obéir. Merci pour ce temps ensemble. Nous avons besoin de toi, Seigneur, tous les jours. Et ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu sois présent ici et que ce soit toi qui parles et qui rende ta parole vivante et efficace dans nos vies, Seigneur. On te remet ce temps. Amen. Est-ce que, si je vous lis une citation, alors c'est traduit de l'anglais, c'est un auteur anglais. En anglais, la citation est la suivante. The poets have been mysteriously silent on the subject of cheese. Et en français, c'est les poètes, de manière étrange, ont été assez silencieux en ce qui concerne le fromage. Est-ce que vous savez qui c'est? Ça m'étonnerait, mais c'est une citation que j'ai toujours trouvée marrante par un auteur qui s'appelle G.K. Chesterton, qui est un romancier, aussi un théologien anglais. Et je l'introduisais de cette manière parce que c'est une citation que j'ai toujours appréciée, que j'ai trouvée rigolote, où il dit « Quand on lit la poésie dans l'histoire, il n'y a pas beaucoup de références au fromage. » Et lui, il trouvait que le fromage était très bien et que ça méritait quelques réflexions de la part des poètes. Mais la raison pour laquelle je voulais l'introduire, c'est G.K. Chesterton, c'est parce qu'il a dit autre chose qui s'applique de manière plus concrète à ce que nous étudions ce matin. Et il a dit que la foi chrétienne n'a pas été testée et trouvée défaillante, mais qu'elle a été trouvée très difficile et qu'on l'a laissée de côté et qu'on ne l'a pas essayée. En anglais, Christianity has not been tried and found wanting. It has been found difficult and not tried. Et les passages qu'on lit ce matin sont de cet ordre-là. Ce sont des choses qui semblent tellement simples quand on les lit, ce sont des instructions tellement claires, et en même temps, ce sont des choses qui sont de l'ordre de l'impossible pour nous. Quand on va regarder les choses, c'est tellement simple et à la fois c'est tellement difficile. Et la foi chrétienne, c'est quand on regarde. Comme il disait, c'est pas qu'on a essayé ce qui avait marqué, puis on a dit ah ça marche pas. C'est que les gens regardent et ils disent ah mais c'est trop difficile à faire. Je vais pas essayer. Et Donc on va regarder ces commandements ensemble. Pierre a déjà introduit le chapitre 12 avec d'autres considérations pratiques, avec le fait qu'il fallait que notre raisonnement, que notre intelligence soit renouvelée. Il a aussi parlé des dons et du corps du Christ, le fait que nous sommes un tous ensemble, que nous avons nos rôles. Il a parlé de la volonté de Dieu. Et je vous encourage à réécouter ces enseignements qui sont très bons. Moi, je les ai réécoutés pour essayer de bien être dans le contexte ce matin. Mais il y a plein de bonnes choses sur la volonté de Dieu. Et je voulais le reprendre. C'est parfois, on demande à Dieu, c'est quoi ta volonté, Dieu? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Et ici, on a des instructions sur la volonté de Dieu. Si vous demandez, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie? Ce matin, il y a des choses qui sont dites très clairement, très explicitement. Et souvent, nous, on veut un message un peu particulier, un peu spécial pour nos circonstances, pour nos vies, pour ce que nous, là où nous sommes. Mais si Pierre l'a déjà mentionné, si nous n'obéissons à rien dans la Bible, si nous ne lisons pas la Bible et nous n'y prêtons pas attention, qu'est-ce qui prouve que s'il me donne autre chose, quelque chose de particulier ou quelque chose de spécial pour moi, est-ce que je vais l'appliquer? Pourquoi est-ce que ce serait différent qu'avec la Bible? C'est une très bonne chose d'essayer de déjà appliquer ce qu'il y a dans la Bible, et quand vous recevrez des instructions peut-être plus spéciales et plus particulières pour vous, là où vous êtes, vous serez plus prêt et plus en mesure de faire ce qu'il vous dit à ce moment-là. C'est très révélateur de qui nous sommes et de combien nous avons besoin de l'aide de Dieu quand nous analysons, quand nous réfléchissons à nos réactions et à comment nous lisons ces passages, comment nous pouvons lire ces passages et ne pas y faire attention, comment on peut... On peut se donner l'air spirituel, dire oui, je prie le Seigneur pour qu'il me montre ce que je dois faire dans ma vie. Je cherche le chemin pour moi dans ma carrière. C'est pas des mauvaises choses. Mais si à côté de ça, on n'est pas en train de s'aimer les uns les autres, si on n'est pas en train de passer du temps tous les jours avec lui dans la parole et dans la prière, si les choses très explicites qui sont là, nous ne les faisons pas, alors d'une certaine manière, il y a de l'hypocrisie. Et souvent, quand je parle ainsi, si je dis « Ah oui, j'attends que le Seigneur me montre », bien souvent, et j'ai honte en y pensant, c'est plus moi qui ai pas envie de m'engager ou qui veut, et peut-être je persévère pas vraiment dans la prière ou je suis pas vraiment, j'attends que ça me tombe tout cuit dans l'assiette. J'ai pas vraiment envie de travailler et je veux qu'un matin je me réveille et qu'il y ait Dieu qui vienne sonner à ma porte et qui me mette le plan de route, etc., etc. Et en fait, on l'a déjà. Et donc, c'est important de regarder et de voir ce qu'il nous dit ici. Il y a dans Jacques 1, c'est un passage que l'on reprend souvent, c'est à partir du verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Mais ce sont aussi des choses difficiles. Quand nous lisons ce passage notamment, il y a plein de choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Ce sont des choses en nous-mêmes, dans notre chair, nous ne pouvons pas y arriver. Et nous avons besoin de l'aide de Dieu, du Saint-Esprit dans nos vies pour créer en quelque sorte ces choses et certains de ces comportements. Mais c'est bon quand même de aussi faire un diagnostic personnel et de demander à Dieu de l'aide dans les endroits où nous avons besoin de grandir, où nous avons besoin d'avancer. Et avant de regarder vraiment le texte, je voulais juste aussi mettre en garde contre le légalisme. Ces choses sont très personnelles. Les choses que Dieu peut nous dire, si Dieu peut-être il dit « Ah, vous devez persévérer dans la prière », peut-être que pour une personne, ça veut dire que Dieu veut qu'il prie tous les matins 2 heures. Peut-être que pour une autre personne, c'est qu'il faut qu'il prie 15 minutes le matin avant de partir au travail. C'est des choses qui sont très personnelles et vous devez toujours faire attention de pas prendre votre expérience personnelle vis-à-vis de ces choses et de juger les autres s'ils n'ont pas la même demande de la part de Dieu. Si vous vous sentez « Ah tiens, il faut que j'abandonne quelque chose, s'il faut que je prie plus », peut-être que c'est pas exactement ce que Dieu demande à l'autre personne. Alors, dans les grandes lignes, tout ce que nous voyons dans ce texte s'applique à nous. Mais ne soyons pas légalistes, c'est d'abord des choses que nous devons regarder et appliquer dans nos vies. Et puis aussi, s'il y a quelque chose ce matin qui vous froisse un petit peu, ou vous dites « Tonio, il exagère » je trouve qu'il va un petit peu trop loin », examinez-vous vous-même, peut-être que c'est quelque chose que Dieu vous... Il vous pique un petit peu, il veut que vous changiez quelque chose, et priez pour voir si c'est quelque chose de la part de Dieu. Si c'est que Tonio a été trop loin, vous pouvez aussi venir me voir et me dire que j'ai tort, ou ça, il n'y a pas de problème. Mais regardons ensemble le chapitre 12, donc le verset 9. On va diviser ce matin en 2 parties, avec une partie plus sur les relations entre nous, entre chrétiens, et une partie plus avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. La vie dans l'Église est complètement teintée par notre péché et par notre nature d'homme, et parfois dans l'Église nous nous attendons à ce que les gens se comportent parfaitement, et quand c'est pas le cas, on est énervé, on est blessé, etc. Quand on lit les lettres de Paul, on voit que Paul il passe tout son temps à reprendre, à corriger le comportement des gens dans l'Église, et c'est parce que la réalité c'est que aucun d'entre nous n'est parfait, et que notre communauté ici va être pleine de problèmes, ça va être un bazar, ça va être des difficultés, ça va être des luttes, ça va être des choses difficiles, et c'est la réalité. Et ces quelques versets doivent nous rappeler, nous encourager, nous exhorter à avoir de la grâce et de l'amour les uns pour les autres par rapport à tous ces problèmes qui vont être là. C'est pas une question de si elles sont là, c'est une question de elles sont là, elles vont être là, et nous avons besoin de prier Dieu pour qu'il nous garde dans la grâce et l'amour. Et donc il nous dit que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Dans d'autres traductions, dans la parole de vie, il est marqué que votre amour soit vrai, détestez le mal, attachez-vous au bien. Ou la Bible en français courant dit l'amour doit être sincère. Dieu ne veut pas que nous ayons un amour de façade, mais que nous ayons un vrai amour les uns pour les autres. Ici, il s'agit de l'amour agapé. C'est l'amour qui vient de Dieu, qui est inconditionnel. Et c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose, là encore, que nous avons du mal en nous-mêmes à avoir. Et nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous remplisse de cet amour les uns pour les autres. Parfois, on pense aussi que l'amour, l'opposé de l'amour, c'est la haine. Mais j'ai lu plusieurs commentaires où il disait que l'opposé de l'amour, c'est l'égoïsme. C'est le fait d'être centré, toujours concentré sur soi plutôt que sur l'autre. Et dans l'Église, l'idée, c'est que nous sommes là et que l'autre doit être plus important que nous-mêmes. Et on va le voir dans les versets qui suivent. Ayez le mal en horreur et attachez-vous au bien. Ça semble assez clair. Parfois, on peut faire l'un et pas faire l'autre. On va peut-être détester ce qui est mauvais, mais on n'est pas vraiment attaché à ce qui est bien. Ou peut-être qu'on on est vraiment motivé par ce qui est bon, mais on n'est pas vraiment opposé à ce qui est mauvais. Et là, il nous demande les deux. De haïr, d'essayer de détester ce qui est mauvais et de nous attacher au bien, de mettre nos pensées, nos efforts sur ce qui est bien, sur ce qui est bon. Verset 10, il continue en disant « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Dans la parole de vie, il est dit « Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens, soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. » Ici, il parle donc de l'amour fraternel, l'amour philéo, et le mot « affection », c'est un mot en grec qui signifie un amour familial, un amour dans la famille. C'est d'avoir de l'affection et d'avoir cet amour fraternel entre nous dans l'Église. C'est difficile parfois. Nous pouvons avoir des gens que nous n'aimons pas forcément, des gens qui sont différents de nous, des gens que nous n'apprécions pas particulièrement, mais Dieu nous dit, vous devez avoir de l'affection, de l'amour fraternel les uns pour les autres dans l'Église. Et donc si dans votre tête, c'est peut-être pas un problème pour chacun d'entre nous, mais si vous pensez, tiens, je sais qu'il y a quelqu'un le dimanche matin que je préfère éviter, ou quelqu'un que ça me dérange pas trop si j'ai pas discuté avec eux, ou peut-être ici à l'église ou dans d'autres églises, suivant votre histoire chrétienne personnelle, Dieu nous dit, ne soyez pas comme ça. Ayez de l'amour les uns pour les autres, ayez de l'affection même. C'est plus que juste cet amour un peu de façade. On dit ah, sois béni frère, mais en fait on n'a pas envie de manger avec la personne quoi. On a le dimanche matin de dire bonjour, sois béni, c'est tout ce qu'on est prêt à tolérer quoi. C'est lui, je lui donne rien de plus. Si c'est le cas pour vous avec quelqu'un, priez pour que Dieu change vos cœurs et faites un effort d'aller vers cette personne. C'est comme dans une famille. Nous pouvons avoir dans la famille des gens qui à la fois nous énervent complètement, mais on a une. Alors dans certaines familles, malheureusement, ça va plus loin. Il y a vraiment une cassure, mais en général, il y a un côté où on a une grâce et une patience avec les gens de notre famille. Si c'était quelqu'un du dehors qui faisait ces choses envers nous, on n'aurait aucune hésitation à ne plus du tout parler avec quelqu'un. Et parfois, c'est quelque chose que quelqu'un de notre famille peut faire, notre famille dans la chair. Et là, on va tolérer, on va avoir de la grâce, on va avoir de la patience avec cette personne. Et c'est un petit peu cette idée-là, c'est que ça doit être quelque chose qui va plus loin. Et quelque chose où on tolère et où on pardonne plus et où on a plus de grâce pour nos frères et sœurs. Dans Galates 5, les versets 13 à 14, il est dit « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et dans Philippiens 2, le verset 3, il est dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » C'est difficile ça, cette idée, et c'est ce qui suit dans ce verset, rivaliser d'estime réciproque. Pendant le groupe de maison, on a lu ce texte, et je trouve cette tournure, dans cette traduction-là, je trouve que c'est super prétentieux. Oui, rivalisons d'estime réciproque les uns pour les autres. C'est un peu, c'est les précieuses au Moyen-Âge, enfin c'est un peu... Mais l'idée, c'est que nous devons, avec humilité, toujours considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. C'est que nous mettons les autres en avant plutôt que de nous mettre nous-mêmes en avant. C'est d'une certaine manière presque d'avoir une compétition, de voir qui peut dire le plus en bien des autres dans l'Église, de dire. Et de ne pas dire du mal. Et aussi dans nos pensées, d'avoir du respect, d'avoir de l'estime pour nos frères et sœurs, pas d'avoir des critiques, du jugement ou de « Ah, moi je suis mieux parce que j'ai lu 3 chapitres, lui il en a lu que 2 » ou « J'ai mieux compris ce passage-là » ou « Moi je chante juste le dimanche matin, donc lui il est moins bien » ou c'est la réalité de nos cœurs, malheureusement, c'est que nous sommes tellement... petit à ce niveau-là, et Dieu nous demande d'estimer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Ayez du zèle et non de la paresse, verset 11. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Dans la parole de vie, il est dit « Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. » Nous devrions tous être actifs pour Dieu, pour Jésus. L'Église, ça, c'est pas un endroit pour être paresseux. C'est à le dire à voix haute, on en rigole presque, le monde autour de nous, de nos jours, il y a vraiment un message très fort. Alors je dis ça dans une certaine humilité, parce que je sais que pour certaines personnes, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de... On peut avoir des moments où on a besoin de se reposer, donc ne prenez pas ça mal. Mais dans le monde, il y a parfois un côté où on dit j'ai besoin de temps pour moi, ou j'ai besoin de me faire du bien avant de pouvoir faire du bien aux autres, ou il faut que je m'aime moi d'abord avant de pouvoir aimer les autres. Ces choses-là ne sont pas des messages que l'on trouve dans la Bible. La Bible, c'est on doit se dépenser pour les autres, pour Jésus et pour les autres. C'est l'exemple que nous avons, les choses que nous avons dans le Nouveau Testament. C'est pas des exemples où on dit oui, je vais faire attention à moi-même premièrement, puis s'il me reste du temps ou si je me sens suffisamment bien, alors je vais aider les autres. Encore une fois, c'est quelque chose à regarder envers soi-même. Comme je disais, je sais très bien qu'il y en a qui ont des conditions de santé ou des choses où vous avez besoin de repos, donc ne le prenez pas dans ce sens-là. Mais personnellement, en général, on est conscient de ces moments où on dit « oui, j'ai besoin de me reposer » ou « et puis si se reposer, c'est rester à la maison et regarder la télé ». Est-ce que on peut... En nous-mêmes, nous savons, entre nous et Dieu, si nous sommes actifs, si nous sommes zélés, si nous avons de la ferveur pour Jésus dans l'Église ou si nous sommes sur le reculoir, si nous sommes en mode paresse. Donc examinons nous-mêmes chacun. C'est aussi l'idée, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, c'est l'idée de faire de notre mieux, de ne pas faire de demi-mesure. Et là aussi, dans notre société, nous sommes dans une société où nous faisons le minimum. Nous commençons pendant que nous sommes étudiants, quand nous sommes lycéens, on veut apprendre juste ce qu'il faut pour le contrôle, pour avoir la note qu'il nous faut. Tout le reste, ça nous est complètement égal. Au travail, on va faire juste le minimum pour satisfaire le chef, parce qu'en général, pour la plupart d'entre nous, on sait que si on en fait trop, de toute manière, on n'aura pas plus de salaire, on n'aura pas plus de promotion, donc on va faire juste ce qu'il faut. Et ces choses-là, c'est pas comme ça que Jésus veut que nous nous comportions. Il veut que nous ayons de la ferveur, que nous allions au-delà, que nous faisions plus. Et c'est difficile. C'est difficile, mais c'est quelque chose qui, dans le monde, peut vraiment avoir un impact. Si nous allons au-delà de ce qu'on nous demande et qu'on fait vraiment des efforts et que les gens nous disent « mais pourquoi tu fais ça ?» et qu'on dit « mais parce que je le fais, parce que je crois en Jésus et qu'il veut que je fasse de mon mieux et que j'en fasse plus, que quand on me demande de faire 1 kilomètre avec quelqu'un, j'en fais 2, que quand on me demande un manteau, j'en donne 2, que si on me demande à manger, j'en donne... » plus, etc., etc. Il veut que nous fassions plus. Et quand ça devient une habitude dans nos vies et que ça se répercute sur la vie de l'Église, je pense que d'une certaine manière, c'est un péché vis-à-vis de Dieu quand nous sommes... si on dit « oui, je vais nettoyer l'Église » et puis on passe vite fait un coup de balai et on dit « il y a un match de foot, il faut que je rentre » ou « il y a quelque chose, j'ai une amie, je préfère aller faire ça, j'ai pas envie de... » ça se répercute sur Dieu. C'est quelque chose que, vis-à-vis de Dieu, nous ne lui accordons pas, nous ne lui donnons pas l'importance qu'il doit recevoir. Verset 12. « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » L'espérance. Dans Luc 10, au verset 20, Jésus nous dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Notre espérance, ça doit être que nous allons au ciel, que nous allons voir Jésus. Ça doit changer nos réactions et nos sentiments par rapport à ce monde ici. Je vais y revenir, mais il y a l'idée de la sagesse, l'idée du trésor. Là où est votre trésor, là sera votre cœur. Dans quoi est-ce que vous investissez? Est-ce que c'est ce monde-ci ou est-ce que vous investissez? Cet exemple de faire le ménage, on dit oui, alors oui, c'est pas très grave, c'est l'église, ça va, c'est juste. Mais si on le fait comme à Jésus, qu'on est en train de dire Jésus, je veux faire le ménage du mieux possible pour bénir mes frères et sœurs, pour te faire plaisir. Dieu nous promet que d'une certaine manière, il le voit et il le note dans notre carnet d'investissement au ciel. On est en train notre compte en banque au ciel est en train de grossir quand nous faisons ce genre de choses. Et c'est la sagesse de pouvoir avoir cette perspective et de nous dire, on se réjouit dans cette espérance de se dire, on va au ciel, il y a quelque chose là. Soyez patients dans la détresse. Ne soyons pas frustrés. Mais patient avec les choses autour de nous. Ça se rapproche un petit peu de l'idée de contentement. Je pense qu'il y a aussi ici, par rapport à notre vie en communauté dans l'Église, l'idée que, et ça revient plus loin dans les versets, mais c'est que parfois, quand on est dans la difficulté, on se comporte mal. Ça vous est jamais arrivé de vous dire « oui, non, j'ai pas envie de parler parce que ce matin ça va pas. » Et d'une certaine manière, c'est un peu comme moi, ça va pas ce matin, donc j'ai un passe-droit, je peux être méchant et faire ce que je veux et pas bien me comporter parce que ça va pas ce matin. Et c'est pas ok. Soyez patient dans la détresse, persévérez dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Est-ce que nous persévérons dans la prière? Est-ce que nous prions pour les choses de manière continuelle? Est-ce que nous restons, là aussi, ça dépend de chacun d'entre nous, de ce que ça veut dire, mais en vous-même, est-ce que vous persévérez dans la prière? Je sais que pour beaucoup de choses, pour moi personnellement, je vais prier peut-être une fois, et puis j'y pense plus, et puis j'y reviens une semaine plus tard, mais il n'y a pas une endurance forcément avec certains sujets de prière, et la Bible nous dit persévérer dans la prière. Verset 13, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. La Bible, parole de vie, dit aidez les chrétiens qui en ont besoin, recevez bien ceux qui viennent chez vous. Donc, pourvoir aux besoins des saints, c'est les chrétiens, c'est les autres croyants. Dans Galates 6, 10, il est dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. » Paul nous met une petite priorité quand même aux frères et sœurs dans la foi. Et quand on dit de pourvoir aux besoins des saints, il y a l'idée c'est quelque chose, c'est financier ou peut-être matériel, mais c'est l'idée de rien attendre en retour. C'est l'idée que nous donnons et que nous sommes pas là à se dire bon je lui donne mais il va me le rendre plus tard, etc., etc. Ça va avec l'idée d'investissement aussi. Le monde pourrait dire mais c'est un mauvais investissement parce que il n'y a pas de retour immédiat sur ce que tu fais et là aussi, c'est l'idée de faire confiance à Dieu. Si je donne de mon argent à quelqu'un et qu'il ne me le rend pas et qu'il n'est même pas gentil avec moi, etc., Dieu le voit et c'est un investissement au royaume. Il y a un équilibre un peu marrant parfois, je trouve, avec la foi chrétienne où il y a un côté très... on doit être motivé par l'amour de Jésus et par quelque chose d'un petit peu... très désintéressé. Et en même temps, parfois, Paul, il nous met la carotte. Il nous dit, mais il y a quelque chose, ça va nous rapporter quelque chose. Et c'est quelque chose qui est enseigné. Il y a des gens qui vont arriver au ciel, qui vont être... ils n'ont rien ramené avec eux, ils n'auront pas de trésor ou de récompense au ciel. Il y en a d'autres qui auront une récompense plus forte. Et un auteur, C.S. Lewis, parlant de ça, disait, c'est un petit peu... c'est peut-être aussi Dieu qui, quand on est jeune et pas mature dans la foi, on a besoin d'une motivation concrète et pratique avec quelque chose de « Ah, je fais ça parce que j'ai investi au ciel, tu notes bien Dieu » et on est motivé par ça. Et petit à petit, avec la maturité, on va grandir et peut-être simplement faire les choses parce qu'on a envie de faire plaisir au Seigneur. Et je trouve que c'est une bonne manière de voir la chose. Mais nous devons donc pourvoir aux besoins de nos frères et sœurs. Ça peut être ici dans l'église, si vous voyez les besoins, ça peut être de l'aide pratique, ça peut être de l'aide matérielle, ça peut être du temps, ça peut être des gens dans d'autres églises, ça peut être les gens persécutés, ça peut être plein de choses. Et priez, voyez vous-même dans votre cœur, voyez avec Dieu, « Dieu, est-ce que tu veux que je sois plus généreux, que je donne à quelqu'un ?» Soyez ouverts à ça. Et l'idée d'exercer l'hospitalité, c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu dans notre société parce qu'on n'a pas le système de voyage à pied ou à dos d'âne qu'il pouvait avoir à l'époque. Mais c'est un amour envers les étrangers. Nous, souvent, on pense à l'hospitalité, on dit si j'invite tous mes copains à la maison et que je leur fais un bon repas, c'est que j'ai le don de l'hospitalité, mais c'est pas vraiment ça. L'hospitalité, c'est aimer ceux que vous ne connaissez pas, c'est les étrangers. Et la nature humaine, c'est quelque chose, on évite les étrangers. Si vous allez à une soirée, si vous êtes invité quelque part, notre tendance naturelle, ça va être d'aller voir ceux qu'on connaît et de rester avec eux. Le dimanche matin, à l'église, après le culte, vers qui est-ce que vous allez en priorité ? Vers les gens qu'on connaît, vers ceux avec qui on a plus de choses en commun. C'est notre nature, ce qu'on ne connaît pas, il y a quelque chose. Et donc, pour cette notion de l'hospitalité qu'il pouvait y avoir à l'époque, où on pouvait accueillir peut-être des voyageurs étrangers qui étaient là dans la ville, ça c'est quelque chose de plus difficile ici. Mais comme défi très simple... Nous, on a la chance ici d'avoir le café. Vous n'avez pas besoin d'inviter les gens à la maison au début. Vous pouvez y aller par étapes, tranquille, ça vous coûte un petit peu moins. Mais peut-être ce matin, dites-vous, tiens, qui est-ce que je ne connais pas ici parmi nous ? Et offrez-leur un café et apprenez à les connaître. C'est quelque chose de très simple, mais qui nous échappe parfois. Et dans une église de notre taille, on n'a pas vraiment l'excuse. Il n'y a pas d'excuse si on ne se connaît pas tous. Si c'était une église de 3000 personnes, une super church, c'est peut-être autre chose. On peut dire, c'est un petit peu difficile à connaître. J'ai 50 amis Facebook, c'est trop. Mais là, ici, on n'est pas nombreux. Si vous savez, si on vous parle de gens et vous dites qui ? Quoi ? Qui c'est ça ? Il était à l'église dimanche, ah bon ? Faites l'effort ce matin, peut-être. Un petit défi. C'est de l'hospitalité. Peut-être inviter quelqu'un à la maison de parmi nous. C'est l'amour que Dieu veut que nous ayons les uns pour les autres ici dans l'Église. Et ça, ce sont des choses qui nous coûtent. Ce sont des choses qui vont nous coûter. Je vous disais que l'Église, c'est un bazar. Paul, il nous dit ces choses parce qu'elles ne sont malheureusement pas toujours présentes. Et d'inviter quelqu'un, de passer du temps avec eux, ça peut vous coûter quelque chose. Ils peuvent vous blesser, vous le savez très bien. Et parfois, on est sur la défensive parce qu'on a été blessé, parce que quelque chose nous a fait mal. On se dit, Je vais rester un peu, j'ai déjà trop donné et on m'a fait mal, on m'a trop pris, j'ai donné de l'argent, on m'a jamais rendu, j'ai aidé, mais moi après quand j'avais besoin d'aide, on m'a pas aidé. On garde le score et c'est pas comme ça que Dieu veut que nous nous comportions dans l'Église. Il sait que ça va nous coûter et il nous dit d'y aller quand même, d'être vulnérable, d'être généreux. Un des commentaires sur la lettre de Paul aux Romains par Claire Lise de Benoît, que Pierre a cité pas mal de fois, elle a une citation très courte que j'aimais bien, c'était « Cœur aimant et bourse ouverte vont de pair, cœur aimant, maison ouverte ». Est-ce que nos bourses sont ouvertes? Est-ce que nos maisons sont ouvertes? Est-ce que nos vies sont ouvertes à nos frères et sœurs d'une certaine manière? Romains 12, verset 14. Ici, on passe peut-être un petit peu plus dans une optique de comment nous nous comportons vis-à-vis du monde à l'extérieur. Parfois, on peut évangéliser, on peut parler de Dieu, on peut partager ce qu'est l'évangile aux gens. Mais parfois, on a besoin aussi en plus de faire ça, on a besoin de leur montrer dans nos comportements. Et ça doit aller de pair. On doit parler, mais en même temps, ils doivent voir une fois qu'on leur a annoncé l'évangile ou qu'on leur a dit qu'on était chrétien, et de voir les comportements, ça va leur montrer qu'il y a quelque chose aussi. Donc il dit au verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Dans la Bible, parole et vie, il est dit, « Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir, souhaitez du bien et non du mal. » Donc bénir ceux qui vous persécutent. Qu'est-ce que ça veut dire bénir? Ça veut dire parler en bien de quelqu'un, souhaiter du bien à quelqu'un ou faire du bien à quelqu'un. Et quelqu'un qui nous persécute, qui nous fait du mal, c'est difficile d'avoir ce genre de comportement à leur égard. Si vous voulez, on peut se tourner dans Luc 6. Il y a tout un passage et je prends le temps de le lire parce que les versets qui suivent parlent aussi de ça et de cette idée d'aimer les ennemis ou d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, d'aimer ceux qu'on ne connaît pas. Donc dans Luc 6, les versets 20, à partir du verset 27, et ici c'est Jésus qui nous parle, il dit « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc plein de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. » Difficile de discuter avec Jésus à ce niveau-là, de négocier sur ce genre de choses. Et peut-être que, on le voit après, peut-être que vous n'avez pas des gens qui vraiment vous persécutent, mais peut-être qu'il y a des gens dont vous savez qu'ils vous aiment pas beaucoup, ils ne vous aiment pas beaucoup au travail, ou peut-être même que c'est des gens que vous n'aimez pas beaucoup au travail ou dans la vie de tous les jours, un voisin, j'en sais rien. Bénissez-les. Faites-leur du bien. On va le voir après encore dans les versets qui suivent. Ne maudissez pas. Ne dites pas du mal de ces personnes. Ne leur voulez pas du mal. « notre perspective à ce niveau, souvent on se trompe d'ennemi. On pense que les gens qui nous font du mal ou qui nous persécutent ou qu'on n'aime pas, on pense que ce sont eux l'ennemi. Quand ce ne sont pas des croyants, l'ennemi c'est le Satan, c'est lui le vrai ennemi, c'est lui qui les utilise en quelque sorte comme des pions pour avancer son agenda. Et notre perspective, ça doit être, c'est pas eux mes ennemis, au contraire, eux c'est des gens qui sont captif et soumis à mon vrai ennemi et que Dieu veut libérer. Et rien que d'avoir cette réflexion, ça peut changer notre sentiment par rapport aux gens, par rapport aux gens que nous avons en face de nous, qui nous font peut-être du mal. C'est difficile parce que ça demande un changement de perspective, mais on doit prier, on peut demander à Dieu qu'il change nos cœurs et notre manière de voir les choses, qu'on ait sa vision des gens autour de nous qui ne sont pas croyants. Verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » C'est l'idée d'avoir de la compassion, d'être là aussi, d'être centré sur ce que l'autre ressent, pas sur ce que moi je ressens, c'est pas moi le centre, c'est l'autre. Et ça demande un certain oubli de soi, ça demande c'est difficile de pas... On peut être peut-être dans le deuil et on a quelqu'un qui se réjouit et ça peut être difficile de se réjouir avec la personne vraiment. On dit non, mais moi, je peux pas, j'ai pas envie d'être avec eux. Moi, je suis mal et eux, ils font la fête, ils sont contents, je vais rester chez moi. Ou peut-être quelqu'un est triste et pas bien et nous on est bien et on n'a pas envie d'être avec cette personne parce qu'on se dit ça m'attriste, etc. Ça peut nous arriver aussi dans ces situations d'être jaloux, d'être envieux, quelqu'un qui se réjouit pour quelque chose et peut-être on pense qu'il le mérite pas ou peut-être qu'on aimerait bien l'avoir nous et Dieu nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent, de mettre leur état en avant et de me dire j'ai envie d'être avec eux et de ressentir avec eux ce qu'ils ressentent et de les bénir à travers ça. Verset 16, vivez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. La Bible parole de vie traduit ça, soyez bien d'accord entre vous, ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Et la Bible en français courant dit, vivez en bon accord les uns avec les autres, n'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez les tâches modestes. Pour ce genre de choses, pour toutes ces choses que nous voyons, par rapport au contexte de notre étude dans Romains, ce sont des choses qui nécessitent que notre intelligence soit renouvelée pour que nous arrivions à ces choses. Et ici, pour être en accord les uns avec les autres, je pense qu'il s'agit plus des chrétiens ici, mais c'est l'idée que notre intelligence doit être renouvelée, notre perspective, nos ambitions doivent être unis à Dieu, à Jésus, à ce que Jésus veut pour l'Église et nous devons vivre en accord les uns avec les autres. Il y a vraiment beaucoup de versets qu'on pourrait lire, je vais peut-être passer par rapport au temps qu'il nous reste, mais ça se rapproche aussi de l'idée de corps. L'Église qui est un corps qui doit fonctionner ensemble et c'est toujours c'est une illustration tellement simple et en même temps tellement pratique, mais s'il y a une jambe qui veut aller à droite et l'autre qui veut aller à gauche, on a un problème. Et Dieu nous dit de vivre en accord les uns avec les autres et c'est quelque chose là aussi qui est difficile et qui n'est pas toujours évident et où on doit prier pour que Dieu nous garde dans l'unité et en accord les uns avec les autres, avec ce qu'il veut pour nous. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. ça peut peut-être être, beaucoup de choses. C'est peut-être l'idée d'accorder trop d'importance à des personnes peut-être célèbres ou très peut-être charismatiques ou talentueuses, par exemple dans l'église. On a envie d'être copain avec un tel et pas trop avec un autre parce que lui il est beau, il est doué, j'en sais rien. Ou peut-être qu'il y a des gens influents dans l'église et on se dit je vais plutôt être avec eux et pas trop avec eux. Lui il est un peu, c'est un simplet, j'ai pas trop. et ça doit pas être comme ça. Est-ce que nous allons vers les gens moindres? Est-ce que nous accordons de l'importance aux gens moindres? Que ce soit des adultes ou peut-être même les enfants, d'une certaine manière, on peut dire, mais si je les... Peut-être, par exemple, certaines personnes peuvent avoir de l'ambition dans le ministère et se dire, j'ai envie d'être le pasteur, celui qui parle, et si on leur demande de faire l'école du dimanche, ils disent, non, ça c'est les enfants, moi ça m'attire pas, parce qu'on s'est fait une hiérarchie, un truc, et on doit pas... avoir une aspiration comme ça, une ambition personnelle vers quelque chose d'élevé. Ça peut aussi être dans l'Église, de manière peut-être plus générale, dans nos objectifs en tant qu'Église ou nos ambitions en tant qu'Église pour ce que nous faisons. On peut, oui, je vais faire on va faire un grand truc, on va faire une évangélisation, c'est pas mauvais en soi, mais si c'est notre seule motivation, si c'est vraiment Dieu qui nous mène, c'est bon, mais si on est toujours à essayer de les réunions de prière, les petites choses, aider les individus dans l'église, nettoyer l'église, aider les petits, qui sait qui s'occupe d'arroser les plantes, et nous on dit non, moi ça m'intéresse pas trop. Par contre, s'il y a un gros truc, un événement où je peux être mis en avant, où je peux me sentir important, est-ce que c'est ce qui m'attire et le reste, je le mets de côté. Là aussi, ce sont des choses très personnelles que chacun d'entre nous devons mesurer vis-à-vis de Dieu pour nos motivations. Ce sont des choses toujours difficiles parce que c'est pas tant la chose en elle-même, mais c'est notre cœur, notre motivation, notre caractère personnellement par rapport à ces choses qui... fait que nous sommes justes ou en faute vis-à-vis de Dieu par rapport à ces choses. Est-ce que nous allons vers ce qui est humble? Est-ce que nous sommes satisfaits d'avoir une petite église et nous dire on va rester comme ça pendant longtemps et on va se satisfaire de ça parce que c'est ce que Dieu nous a donné et parce qu'on veut se consacrer et faire ce que Dieu nous a demandé de faire là où nous sommes? Ou est-ce qu'on va dire non, cette église elle est trop petite, j'ai pas de bons amis ici, la louange n'est pas comme je l'aime, etc., etc. Je vais plutôt aller ailleurs où c'est... Et encore une fois, c'est à chacun d'entre nous de mesurer nos motivations par rapport à ces choses. Ne vous prenez pas pour des sages. Une citation de Proverbe 3, 7. Et ça me rappelait un truc, et c'est Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Paul est obligé presque de le répéter deux fois dans le même chapitre. Ça veut dire que c'est un danger, qu'on se prenne pour des sages, qu'on ait une trop haute opinion de nous-mêmes, qu'on pense qu'on est arrivé à quelque chose, qu'on se croit être quelqu'un. Ça peut être vis-à-vis entre nous, ça peut être vis-à-vis des autres églises, ça peut être vis-à-vis du monde. Il nous dit, ne vous prenez pas pour des sages, soyez humbles. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal, c'est la vengeance. Le fait de réagir quand quelqu'un nous a fait du mal. Là aussi, ce sont des choses qui sont répétées maintes fois dans la Bible. Et parfois, c'est plus facile avec les non-croyants, avec les gens du dehors qui nous font du mal. Comme je vous disais, parfois on dit « oui, mais lui, c'est un chrétien, donc il devrait savoir, il devrait mieux se comporter, il m'a fait du mal, mais il le sait ». Et la Bible nous dit non, mais ne rendez pas le mal pour le mal, ne vous vengez pas. Là aussi, dans un commentaire, il y avait quelque chose qui était cité, où il disait « Rendre le bien pour le bien, c'est humain. Rendre le mal pour le mal, c'est bestial. Rendre le mal pour le bien, c'est diabolique. Et rendre le bien pour le mal, c'est divin. » Et je trouvais que ça résumait assez bien ces quelques versets. Et Dieu veut que nous ayons son comportement, que nous rendions le bien là où on nous donne du mal. Rechercher ce qui est bien. Concrètement, ça veut dire qu'on doit, dans nos vies, montrer ce qui est bon, ce qui est bien, qu'on peut en parler, qu'on peut y réfléchir, ce qui est bon, ce qui est bien, ce que Dieu veut, ce que Dieu aime. Ça peut être nos comportements, nos pensées, nos sentiments, d'aller réfléchir, de cultiver ce qui est bien. Verset 18. « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Pardon. Donc ici aussi, c'est quelque chose qui revient, mais c'est... Si vous pensez à quelqu'un qui vous a fait du tort, ou si vous avez fait du tort à quelqu'un, Dieu nous dit, soyez en paix avec cette personne, allez vous réconcilier avec cette personne, demandez pardon, essayez de rétablir la situation pour être en paix avec les personnes autour de vous, dans la mesure du possible. Évidemment, Jésus disait lui-même qu'il amenait une épée, en fait, et qu'il causerait de la division. Et il y a des gens qui vont peut-être nous détester ou avoir des problèmes avec nous simplement parce que nous sommes chrétiens. Et à ce moment-là, c'est peut-être un petit peu au-delà de notre capacité à agir. Donc il dit bien, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On le verra la semaine prochaine, ça peut aussi être vis-à-vis des autorités et du monde autour de nous, dans la mesure où ce que les autorités nous demandent et les exigences que la société peut avoir de nous. Mais il ne faut pas qu'on ait un conflit avec des gens à cause de notre comportement, de nos pensées ou de notre fierté, par exemple. Soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » C'est une citation dans Deutéronome. C'est encore une fois l'idée de vengeance. Et c'est quelque chose de difficile, encore une fois. On est d'accord, notre nature humaine réagit quand on nous fait du mal. Mais la Bible nous explique que quand nous nous vengeons, c'est que nous ne faisons pas confiance à Dieu pour voir les choses et pour être au courant des comportements et pour rendre en quelque sorte ce qui est dû aux gens. La vraie et la bonne perspective, encore une fois, un petit peu comme ce qu'on a lu dans Luc, c'est l'idée aussi que Dieu nous a fait grâce, il ne nous a pas donné ce que nous méritons, il ne nous a pas donné... Les gens nous font du mal et on dit « Ouais, Dieu, il a fait du mal, zigouille-le. » Et la réalité, c'est plutôt « En fait, moi, Dieu devrait me zigouiller et il ne m'a pas zigouillé, donc je devrais avoir de la gentillesse vis-à-vis des gens et ne pas réagir. » Ça peut être dans les situations, ça peut être très difficile et nous devons demander de l'aide à Jésus pour nous remplir de son esprit, le fruit de son esprit, pour ne pas nous comporter comme ça, pour lui faire confiance, d'avoir bien vu ce qui s'est passé et de s'occuper de moi et de s'occuper de cette personne et de s'occuper de la situation. Et c'est pas ma responsabilité. Verset 20. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Là aussi, c'est une citation de Proverbe 25. Donc je vous disais déjà que ça, les ennemis, vous n'avez peut-être pas, vous dites, oh, moi j'ai pas d'ennemis, mais il y a peut-être des gens que vous aimez pas ou des gens qui ne vous aiment pas, ça s'applique aussi à ces personnes-là, faites-leur du bien. Et c'est un passage qui est un petit peu marrant parce qu'on se dit, oui, si je leur fais du bien, ça leur fait des charbons ardents sur la tête, yes! En faisant du bien, d'une certaine manière, je peux me venger. C'est bon. Mais l'idée, c'est pas vraiment ça, mais c'est plutôt l'idée qu'en faisant du bien aux personnes, nous espérons qu'ils aient une conviction qui les amène à changer de comportement et on espère surtout qu'ils aient une conviction qui les amène à Jésus. Dans Romains 2, 4, il est question il est question de la bonté de Dieu qui te pousse à changer d'attitude. Et on le sait nous-mêmes, si on fait du mal à quelqu'un et que cette personne nous fait du bien, ça nous énerve encore plus, ça nous fait réagir, ça, on le sent, il y a une certaine conviction, on sent qu'on est en tort, on sent que... l'idée ici, c'est de faire du bien en espérant que ça les marque et qu'ils se disent, tiens, il y a quelque chose d'autre là, qu'est-ce que c'est ? Verset 21, pour finir, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Parfois dans ces textes, c'est un petit peu facile de lire ça un petit peu en philosophant, un petit peu ce que je disais tout à l'heure à la précieuse. Là. Je ne me laisse pas vaincre par le mal, mais je vais vaincre le mal par le bien. Ça veut pas grand comme ça, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais l'idée c'est que nous ne soyons pas dominés par le mal, par le péché, mais que nous soyons actifs à faire le bien. Et la Bible nous explique à beaucoup d'endroits si nous ne faisons pas le bien, si nous ne sommes pas activement en train d'essayer de servir le Seigneur, d'être activement en train d'essayer de lui obéir, il n'y a pas de position neutre, il n'y a pas de Suisse dans la Bible. C'est pour les Suisses parmi nous. Mais il n'y a pas de milieu. Si on n'est pas activement en train de faire du bien, alors on est d'une certaine manière ne pas faire le bien, c'est aussi faire le mal. Et donc, on doit être activement en train de rechercher le bien à faire. Et c'est quelque chose qui nous protège aussi, parce que si, par exemple, nous prenons tout ce que nous avons vu ce matin et nous nous disons, je vais essayer de faire ça cette semaine, je vais essayer de, tiens, j'ai pensé à un tel, il faut que j'aille le voir, lui faire du bien, un tel, je vais essayer d'inviter quelqu'un chez moi, il nous reste peu de temps pour faire du mal. Si on remplit nos vides en train de faire des bonnes choses, ça nous évite d'avoir plein de temps où on peut faire n'importe quoi. Et on le voit dans la Bible aussi, c'est quelque chose, l'inactivité nous met en position de grand danger. David, quand est-ce qu'il tombe ? Il n'était pas au front, il n'était pas en train de combattre avec son armée, il était à la maison en train de se la couler douce et de regarder Netflix, quoi. Pas pour dire que c'est mal en soi, mais il n'était pas actif là où il devait être, là où Dieu voulait qu'il soit, et c'est là qu'il est tombé. Et donc, soyons vainqueurs du mal en faisant le bien. Et si nous faisons toutes ces choses, si nous nous comportons comme ça, le monde va le voir et ça va changer le monde autour de nous. Je lisais dans un article cette semaine une idée intéressante sur... alors c'était un petit peu plus sur le... C'était pas un chrétien qui écrivait, mais c'était par rapport à... Parfois on peut avoir des résolutions, des projets, on a envie de mieux vivre, mieux manger, c'est un peu les résolutions de début d'année, et on a du mal parce qu'on est dans le moment présent, on se dit j'ai envie de manger ça maintenant, c'est bon... Et il avait une idée intéressante où il disait, quand je suis dans ces situations-là, j'essaie de penser à futur moi qui me parlerait. Et futur moi, il me dirait, mais t'aurais mieux fait de pas faire ça, ou t'aurais mieux fait de... Et donc il disait, j'essaie de temps en temps, quand je suis face à des situations, de me dire, tiens, qu'est-ce qu'en penserait futur moi de ce que je suis en train de considérer ? Et je trouvais que ça se liait un petit peu avec ces instructions, avec ces choses, et par rapport à ce que je vous disais, avec la sagesse, avec le trésor au ciel, et l'idée que si nous faisons ces choses, c'est un investissement pour le futur. Futur nous au ciel va dire, c'était une bonne idée là, t'as obéi à ce qu'il y avait dans la parole, c'était bien, c'était une bonne idée, et bravo. Et si nous ne les faisons pas, si nous nous disons, ouais, j'ai mieux à faire, futur moi va peut-être me dire, Tonio, t'aurais mieux fait de te comporter différemment. Et juste quelques versets pour finir avec cette idée. Dans Matthieu 6, donc là où on était, où on avait lu, juste avant, au verset 19, il est dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » Et ensuite, dans Jacques 3, les versets 17 et 18, il est dit « La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. » Et pour moi, ce passage dans Jacques me semble très proche des comportements et du caractère qu'on a vu dans le reste du passage aujourd'hui. Et dans Jacques 1, 5, il est dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » La sagesse d'en haut, c'est tous ces comportements, c'est d'obéir à ces choses et c'est de faire ces choses. Et nous avons besoin de plus de sagesse, je pense, tous, autant que nous sommes, moi en tout cas, c'est vrai. Donc, prions ensemble. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ce texte. Jésus, nous sommes tellement reconnaissants pour ta grâce, parce que quand nous lisons ces passages, quand je lis ces passages, Seigneur, il y a tellement de choses que je ne fais pas, que je n'arrive pas à faire. Et tu m'aimes quand même, tu me sauves quand même, Seigneur. Mais tu ne veux pas t'arrêter là, tu veux quand même me faire grandir, tu veux me faire devenir plus mature dans ces choses. Tu veux que ces comportements deviennent une partie de ma vie. Et Seigneur, j'ai besoin de ton esprit dans ma vie. J'ai besoin de plus de ta sagesse dans ma vie, Seigneur. Remplis-moi, je te prie, de plus de ça, Seigneur. Aide-nous en tant qu'Église à obéir à ces paroles, Seigneur, à être chacun d'entre nous plus rempli de ton esprit et de ta sagesse, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble, Seigneur. Merci pour cette famille que nous sommes en toi, Seigneur. Merci pour ce matin, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen.